autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation pour réouvrir les possibles aujourd'hui et tenter de penser les crises environnementales et écologiques que nous traversons sans sombrer dans le catastrophisme absolu. L'effondrement annoncé comme inéluctable par les collapsologues n'est-il pas aussi paralysant que le déni de réalité prôné par ceux qui veulent surtout continuer le business as usual? Est-il possible de sortir de cette double impasse? Si tout est foutu, à quoi bon? Et si tout va bien, Madame la Marquise, c'est encore pire. Y aurait-il une autre voie? Oui, nous répondent deux pionniers de la pensée environnementale, lanceurs d'alerte et formidables empêcheurs de penser en rond, les philosophes et sociologues Catherine et Raphaël Larère, dans un essai percutant sur l'aveuglement catastrophiste, auquel nous avons emprunté le titre de cette émission, autour de la question « Pourquoi le pire n'est pas certain ?» Bienvenue.
Donc effectivement, la question, c'est que les scientifiques nous disent tous les solutions sont possibles. Mais comment réussir à motiver les décideurs? Parce que possible, mais à condition de changer de manière drastique nos manières de vivre. Et donc là, c'est vraiment un dilemme. On ne peut pas dire « c'est foutu ». On ne peut pas dire « vous inquiétez pas, il y a des solutions ». Comment trouver le juste équilibre entre être un peu alarmiste et en même temps bien montrer qu'il y a une urgence réelle?
C'est précisément, comme vient de le dire Mathieu Ricard, parce qu'il y a urgence à penser ce qui nous arrive et à trouver le juste équilibre pour le faire que vous nous mettez en garde contre l'aveuglement catastrophiste dans votre dernier essai. Le pire n'est pas certain. Bonjour Catherine Larère.
Bonjour, merci de m'avoir invitée.
Merci d'être en direct avec nous en studio, en présentiel comme on dit. Bonjour Raphaël Larère.
Bonjour, bonjour.
Merci d'être...
Et merci de m'avoir invité au téléphone.
Absolument, vous êtes en ligne avec nous. Pandémie oblige, oui. Nous ne pouvons recevoir qu'un invité en direct, en présentiel. Mais c'est bien à quatre mains que vous avez tous les deux, Catherine et Raphaël, rédigé cet essai, publié aux éditions Premier Parallèle. Un essai qui va à rebours de la pensée dominante sur l'effondrement. Selon vous, la collapsologie qui considère la catastrophe comme inéluctable et non seulement... contre-productive, mais surtout paralysante. Alors je rappelle, avant de vous laisser enchaîner, Catherine Larère, que vous êtes professeure émérite de philosophie, que vous avez grandement contribué à développer en France, en tout cas, la philosophie environnementale. On peut citer par exemple deux de vos précédents ouvrages, écrits également à quatre mains, du bon usage de la nature pour une philosophie environnementale, mais également penser et agir avec la nature. Alors c'est précisément pour pouvoir penser, Catherine Larère, que vous refusez d'attendre, enfin de considérer le pire comme certain.
Tout à fait. C'est-à-dire, on va poser la question du rapport de la collapsologie à l'action. Mais avant, je crois qu'il faut poser la question du rapport à la pensée. Parce que, je dirais, c'est une sorte de défaite de la pensée. C'est une façon d'accepter que quelque chose va arriver sans vraiment réfléchir sur ce que c'est et poser des questions. Donc, c'est à la fois un rapport à l'action et un rapport à la pensée.
Raphaël Larère, vous êtes ingénieur agronome et sociologue, spécialiste d'éthique environnementale. Alors dans cette éthique environnementale, pour vous aussi, c'est contre-productif, paralysant, une défaite de la pensée que de considérer la catastrophe comme inéluctable?
Ben, je le pense d'autant plus que justement, je pense qu'elle n'est pas inéluctable.
Et voilà.
Mmh. Et si elle était inéluctable, à quoi bon se poser des questions sur les relations que nous pouvons avoir avec les autres qu'humains et sur les relations que nous pouvons avoir avec la nature.
Avec les autres non-humains aussi.
Non-humains.
Voilà.
Et vous les avez... autres qu'humains, c'est ça que je disais.
Les autres qu'humains, d'accord. Et vous avez de nombreux arguments pour nous faire comprendre justement que le pire n'est pas certain, que la catastrophe n'est pas inéluctable. Alors d'abord, quand on dit la catastrophe, vous en parlez au pluriel, parce que la catastrophe, c'est quasiment religieux, ça fait penser à l'Apocalypse, Catherine Larère.
Oui, alors c'est sûr que ça hérite d'un imaginaire de la fin du monde. Et que nous connaissons surtout sous la forme de l'imaginaire chrétien, de l'Apocalypse, et que ça hérite de ça, ça c'est certain. Mais ça ajoute à ça, ça prétend s'appuyer sur une vision scientifique et pas simplement sur une prophétie ou des paroles divines. Mais effectivement, un des premiers problèmes, c'est est-ce qu'on peut parler d'un effondrement unique, global, qui se passe absolument au même moment dans le monde entier ? Ça paraît quand même un petit peu difficile à accepter.
Vous préférez le mot effritement, hein, d'ailleurs, que effondrement.
Oui, alors on emprunte ça à Yves Citon et à Jacob Rasmi, l'idée que, bon, effectivement, le monde va mal.
Hein, on
n'est pas on en train
d'accord,
de dire
hein,
tout va
et
bien.
Il y a de grosses questions écologiques et environnementales.
Il y a de grosses questions écologiques. Bon, est-ce qu'il faut penser que ça comme une sorte de fin du monde soudaine ou alors un enchaînement d'événements qui mènerait nécessairement à la fin du monde, on préfère dire effectivement que ben, des situations qui étaient stables deviennent instables, que c'est l'anthropologue Anna Tsing qui parle un peu de, c'est un monde abîmé. C'est un monde qui se désagrège un peu, mais il n'y a pas un grand trou dans l'idée de collapse, hein, d'effondrement, un grand trou qui absorberait tout.
Hein. Nous vivons finalement déjà dans un monde abîmé. Nous habitons déjà dans des catastrophes.
Alors, si vous voulez, il y a quelque chose qu'on appelle l'amnésie environnementale ou écologique, qui est en fait, nous réglons sur la nature que nous avons connue dans notre enfance. C'est formateur. Or, des gens comme Raphaël et moi qui sommes âgés, nous avons connu une autre nature que nos petits-enfants, ceux qui ont entre une vingtaine d'années maintenant. Et il y avait une très grande... quelqu'un qui a joué un rôle très grand dans la prise de conscience environnementale, cette biologiste qui s'appelle Rachel Carson.
Le
printemps silencieux, où elle est là.
Dans les années 60.
Le livre paraît en 62. Et où elle dit le danger des effets secondaires des pesticides et du DDT à l'époque. Les jeunes d'aujourd'hui ne savent plus ce qu'est le DDT, mais bon, donc d'un insecticide puissant. Et elle dit... J'ai écrit ça parce que si je n'avais pas fait ce livre, les plus jeunes que moi seraient dans un monde où les oiseaux ne chanteraient plus. Et je ne veux pas qu'ils oublient qu'il y a un monde où les oiseaux chantent. Et je crois que c'est important de ce point de vue-là de se dire que effectivement nous sommes dans un monde où un certain nombre de choses ne sont plus possibles.
Hein. Et nos auditeurs sur le continent africain le savent bien, hein, puisque leurs parents eux-mêmes ont vu une autre réalité, une autre nature, avec plein de causes différentes aussi. Mais on se rend bien compte que donc ces catastrophes ou ce monde abîmé, ça implique une réalité, Raphaël Arre, bien plus complexe que simplement blanche ou noire ou verte ou noire. C'est plus compliqué que ça. Plus complexe, en tout cas.
Oui, c'est plus compliqué. Et je voudrais... Mais avant de répondre là-dessus, je voudrais dire, mais au fond, la fin du monde. Mais quand ils parlent de la fin du monde, d'une certaine façon, même si on suit un peu leur raisonnement, c'est la fin de notre monde. Du monde des pays industriels... de la civilisation thermo-industrielle, comme ils disent, ou du monde capitaliste dominant. Hein. Alors, les fins du monde, les effondrements, il y a plein de populations qui l'ont connu. Mm-hmm. Et qui l'ont connu, bon, par exemple, tous les Amérindiens, quand les Européens sont arrivés, leur civilisation s'est effondrée. Mm-hmm. Mm-hmm. Et que même, je dirais, qu'une bonne partie des civilisations d'Afrique, avec la prise,
la colonisation,
et puis aussi l'envoi des esclaves, on a des civilisations qui se sont effondrées. Donc, il y a eu déjà des fins du monde. Et c'était pas le même monde, c'est-à-dire que c'est simplement le monde est quelque chose de pluriel.
Même aujourd'hui, le monde reste pluriel et il y a eu des Absolument. Fins du monde. Autour de la question, pourquoi le pire n'est pas certain? Alors, le pire, c'est bien sûr la catastrophe, hein, l'effondrement absolu, total. Mais vous vous alertez, et vous le faites en ce moment même, sur les possibilités de les catastrophes, le changement climatique, la perte de biodiversité, l'acidification des océans. Donc, vous le reconnaissez, hein, ça va mal. Ah bah à oui, l'heure ça... de l'Anthropocène, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il faut non seulement le dire, mais pouvoir le penser. Et justement, l'aveuglement catastrophique ne permet peut-être pas de le penser. Vous préférez une autre forme de catastrophisme éclairé, celui-là n'est pas aveuglé par la certitude du pire. C'est le catastrophisme éclairé donc, du philosophe Jean-Pierre Dupuis, qui s'en expliquait sur ce terme, sur ce concept, qu'il n'ose même plus employer, au micro de mon confrère Mathieu Vidard de La Terre au Carré sur France Inter, Jean-Pierre Dupuis citant à l'appui le philosophe Karl Jaspers.
Quiconque tient une guerre imminente pour certaine contribue à son arrivée, précisément par la certitude qu'il en a. Quiconque tient la paix pour certaine se conduit avec insouciance et nous mène sans le vouloir à la guerre. Les deux certitudes, là, pessimistes et optimistes, sont à éviter complètement. Seul celui qui voit le péril et ne l'oublie pas un seul instant se montre capable de se comporter rationnellement et de faire tout son possible pour l'exorciser.
C'est ce que vous défendez,
oui, c'est précisément. Ce que j'ai appelé ma forme de catastrophisme.
Ouais. Catastrophisme éclairé.
Oui, hein. Oui, c'était le mot important, éclairé.
Mais votre formule a été reprise par les collapsonautes, justement.
Oui, et par bien d'autres.
Et ça vous embête aujourd'hui?
Je ne l'utilise plus moi-même, parce qu'elle a été tellement mal comprise, puisque des deux côtés, et d'autres côtés encore, on m'a fait dire que le catastrophisme éclairé consistait à tenir la catastrophe pour certaines, ce que je n'ai jamais dit, car ce serait absurde de le dire. Et ils le reprennent.
Bon. En tous les cas, votre ami Jean Jouzel, hein, grand climatologue, évidemment, que tout le monde connaît, dit « il ne faut pas clore l'avenir ». Ça rejoint aussi cette citation.
Mais bien évidemment, si on dit que ça n'est pas certain, eh bien c'est que, si vous voulez, le prophète de malheur, bon, on peut penser au prophète biblique, n'est-ce pas, pour être un prophète utile, aller
dans
le bon sens...
Il trouve des solutions.
Mais il faut qu'il soit un faux prophète. Non, il faut qu'il soit un faux prophète. Il faut qu'il annonce le malheur pour que le malheur ne se produise pas. N'est-ce pas? Bon, et pour ça, il faut tenir compte de l'effet de sa parole sur les gens eux-mêmes. Mais si on dit que les gens, et c'est ce que dit Yves Cochet, par exemple, quoi que fassent les gens, c'est-à-dire nous, eh bien, l'effondrement est certain et se produira avant 2030.
Ça, c'est clore l'avenir.
Mais on clôt l'avenir. C'est exactement ça, la critique.
Catherine Larrère, vous voulez réagir, j'imagine, parce que comme le philosophe Jean-Pierre Dupuis, comme le climatologue Jean Jouzel, vous ne voulez pas clore l'avenir, précisément, même si l'heure est grave.
L'heure est grave. Alors, par rapport à ce que vient de dire Jean-Pierre Dupuis, je rappellerai que, on distingue deux formes de catastrophisme. Ce que Jean-Pierre Dupuis appelle le catastrophisme éclairé, qui est un catastrophe évitable, et dont il faut effectivement jamais perdre l'idée pour pouvoir l'éviter. Mais on pense à la catastrophe pour l'éviter. Et puis, ce sur quoi font référence les collapsologues, Yves Cochet, Pablo Servigne, etc., qui est de dire, au contraire, c'est inévitable. Hein. Et le romancier américain Jonathan Franzen a une phrase très nette où il dit « L'apocalypse est inévitable et il faut l'accepter. Il faut accepter ce caractère inévitable. » Pour faire quelque chose, mais faire quoi? On ne peut plus rien faire.
Ben oui, quand on se dit que c'est inévitable, alors que vous dites bien, et vous aussi Raphaël Larrère, que finalement une catastrophe, par essence, est imprévisible en plus.
Oui, je pense qu'il y a, il y a deux choses au fond dans la prétention scientifique des collapsologues qui ne collent pas. La première, c'est que tout système complexe est à la fois...
Mais nous vivons dans un système complexe.
Oui, ils considèrent que nous vivons dans un système complexe où tout est étroitement imbriqué, tout est étroitement connecté. Bon, et qu'à partir de là, ils considèrent que l'avenir d'un tel système est d'être, de devoir s'effondrer nécessairement sous à peu près n'importe quelle perturbation, qu'elle vienne de l'intérieur du système ou de son environnement, c'est-à-dire bon, des conséquences environnementales qu'a le système en question. Le problème, c'est que justement, un système complexe est un système qui est à la fois résilient, c'est-à-dire capable de trouver des solutions par lui-même, et vulnérable, effectivement. Tout dépend d'ailleurs de ce qui est atteint dans le système.
C'est les deux. Ce que vous dites, Raphaël Haar, c'est que c'est les deux. Un système complexe comme le nôtre, comme le système Terre, c'est un système qui est à la fois très vulnérable, mais en même temps robuste quelque part, qui est capable de résister, de se réadapter, de se reformer autrement.
Et là-dessus, nous sommes tout à fait d'accord avec Jean-Pierre Dupuis. Et la deuxième raison, c'est qu'un système complexe, son comportement est justement imprévisible. On ne peut pas le prévoir, donc on ne peut pas dire, on ne peut pas faire la prévision en disant, mais nécessairement, c'est un destin, il va s'effondrer. Donc je pense que là, il y a deux coups de force qui sont, en utilisant en fait la théorie des systèmes, avec une théorie des systèmes qui est relativement sommaire. D'une certaine façon.
Oui, l'affaire est plus complexe que ça, c'est plus compliqué pour nous. Il est plus simple, finalement, de dire « mais non, tout ça, c'est pas vrai », ou dire au contraire « on va vers la fin et c'est terminé ». C'est plus simple, c'est plus compliqué de dire « justement, c'est à la fois vulnérable et robuste et résilient ». Vous mettez même en cause, je rappelle que vous êtes des philosophes et sociologues de l'environnement, que vous réfléchissez à ces questions-là, vous mettez même en cause le mot même d'anthropocène, finalement, qui serait quoi ? Qui serait peut-être pas la meilleure des expressions, en tout cas un peu le signe de notre mégalomanie, si je veux dire, nous en tant qu'humains, ça y est, on est notre géologique sur la Terre.
Bon, l'anthropocène est une proposition qui a été faite par deux scientifiques, un chimiste Paul Crutzen et un biologiste écologue Stermer, qui ils ont proposé de dire l'impact des actions humaines est tel qu'il transforme le système Terre dans son ensemble et qui donc ouvre une nouvelle ère géologique. Et cette ère géologique, on va l'appeler anthropocène. Et anthropocène, ça veut dire scène, c'est la dernière nouvelle. Et anthropos, en grec, ça veut dire homme. Et bien, cette expression d'ère de l'humain, d'époque de l'humain, est extrêmement ambigu. Parce que là, l'idée de Crutzen et d'un certain nombre de gens qui, après lui, ont proposé ça, c'est de dire, attention, cette ère, c'est la destruction de l'environnement.
C'est
par
notre impact est vraiment néfaste sur l'environnement.
Mais quand on dit l'ère de l'humain, ça veut dire, ça y est, on est les rois. Ça y est, on a... Et moi, je l'ai entendu. J'intervenais à une simulation de réunion de l'ONU par des étudiants de lycée français en Turquie qui disaient, la Terre est sous contrôle. Elle est sous contrôle humain. Ce qui est exactement le contraire.
On a perdu le contrôle.
Le changement climatique nous échappe. On voudrait bien que ça ne fonde pas. L'érosion de la biodiversité. Bon. Mais on est tellement dans une représentation où on se dit c'est l'humain qui domine.
C'est notre faute et donc on pourra réparer aussi. C'est notre faute, mais on pourra tout réparer. Et les deux sont faux.
Alors à la fois, moi je ne suis pas complètement contre l'expression d'anthropocène parce que c'est dire attention, ce n'est pas une petite crise mineure.
C'est ça.
C'est notre condition de vie. Et nous autres humains, nous entraînons le non-humain. Mais ça facilite tellement l'idée que ça y est, on est aux commandes du monde. Donc ça permet des idées extrêmement dangereuses comme la géo-ingénierie ou des choses comme ça au niveau global.
Où on va croire qu'on peut tout arranger par quelques techniques ou coup de baguette magique et technologique.
On va envoyer des particules de soufre dans l'atmosphère et les rayons du soleil repartiront vers le soleil. Et donc,
Mais finalement, vous mettez un peu, pas dos à dos, mais en tout cas face à face, ces deux extrêmes finalement. C'est penser qu'on est les rois du monde et que c'est notre faute mais qu'on va tout rétablir et de penser que c'est de notre faute, on est les rois du monde et on va détruire tout et tout va être détruit et va s'effondrer. Raphaël, un mot peut-être ?
Oui, je pensais que, en rajoutant à ce que disait Catherine, le deuxième inconvénient d'Anthropocène, c'est que ça laisserait penser que l'humanité dans son ensemble est responsable de la situation actuelle et du fait que le monde est abîmé. Ben oui, mais je suis désolé, c'est pas l'humanité entière. Mmh. Hein, le changement climatique, c'est quand même essentiellement les pays développés, industriels, et les pays en cours de développement, comme la Chine. Bon, on ne peut pas dire que ce soit l'ensemble du monde. Hein. Les gens du Burkina Faso, ils n'ont pas du tout la même responsabilité dans l'état actuel du monde que les Américains ou les Européens. Et donc, je pense que là, c'est...
Vous parlez de capitalocène, hein, plutôt.
Voilà. Oui, alors, on peut parler de capitalocène, mais pas... en même temps, le capital, c'est aussi européen. Enfin, bon, moi, je suis toujours très... assez méfiant de ce côté-là, sur le plan purement éthique.
Hein. Vous avez raison.
Ça ne permet pas de... voir quelles sont les responsabilités et de se rendre compte à quel point le fait que ce sont souvent, et pour l'instant par exemple pour le changement climatique, ce sont des pays qui ont le moins contribué au changement climatique qui en souffrent le plus. Et là, il y a non seulement une inégalité importante, mais il y a une injustice aussi.
Il y a une injustice absolue qu'il faut arriver à penser, alors que les collapsologues viennent, eux, peut-être plutôt de l'Occident et du Nord. Autour de la question, pourquoi le pire n'est pas certain et comment, en toute connaissance de cause, ne pas clore l'avenir, que ce soit ici comme ailleurs, hein, on écoute la jazzwoman sud-coréenne Yoon Sun-na sur RFI, Lament. C'est votre choix et on le partage.
Ready to play, I'm not ready to fight, I'm not ready to be the prey of this one-sided game, I'm not ready to climb, I'm not ready to reach there, I'm not ready to see another higher hill appear, I'm not ready to scowl, I'm not ready to not ready to speak out from the bottom of my heart. I'm not ready to stay. I'm not ready to go. I'm not ready to let my thoughts eclipse upon your soul.
Yoon Sun-na sur RFI. Écoutez, sans modération, merci pour ce très joli choix musical. Catherine et Raphaël Larrère, merci. Vous êtes nos invités. Autour de la question « Pourquoi le pire n'est pas certain ?», titre de votre dernier essai, dans lequel vous qui êtes des pionniers en France, en tout cas de la philosophie de l'environnement, nous alertez sur l'aveuglement catastrophique, le côté paralysant et contre-productif des collapsologues qui connaissent pourtant un grand écho médiatique et public. Alors parmi ceux qui nous promettent le pire, il y en a, comment dire, de vraiment pires que d'autres, qui poussent leurs certitudes et leurs prédictions quasiment jusqu'au ridicule. Je ne résiste pas à vous faire écouter Yves Cochet, déjà cité, d'ailleurs, ancien ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement et grand collapsologue devant l'Éternel, auteur de « Devant l'effondrement », extrait d'un entretien qu'Yves Cochet a donné à la chaîne YouTube Green Letter Club, c'était en 2019.
quel serait le mode de transport qui serait dominant dans les années 2035-2040 ? Le cheval. Il faut dire à Renault et Peugeot, nos deux grands constructeurs mondiaux actuellement, mais qui sont quand même français, arrêtez de croire que vous allez remplacer vos voitures thermiques actuelles par des voitures électriques, voire même des voitures autonomes, avec de l'IA et la 5G. Tout ça me fait absolument marrer. C'est de la bêtise absolue. Il faut que Renault et Peugeot se reconvertissent en constructeurs de fiacres, de diligences et de calèches. Elle dit, mais de quoi tu parles là ? Elle ne comprend même pas qu'il y a un problème. Et je dis qu'il faudrait évidemment aider les haras nationaux et les élevages privés. Actuellement, il y a à peu près 100 000 chevaux de trait en France. Il en faudrait 3 millions peut-être en 2035. Ils ne vont pas naître en 2034. Il faut donc préparer maintenant à ce que des juments puissent mettre à bas des chevaux de trait, pas les chevaux de course. Hein. Bon, tout ça, c'est une politique sur 10 ans, sur 15 ans. Ça se prépare. Vous dites ça, M. Macron, mais il ne vous écoute même pas. Il dit, mais non, c'est impossible. Ils ne peuvent pas croire à ça. Et ça, c'est pour les domaines des transports. Je pourrais dire la même chose pour évidemment, l'alimentation, pour l'habitat, pour l'habit, pour la santé, etc. Ils sont incapables de penser. Ils ne peuvent pas penser ça.
Pour connaître où c'est difficile de penser, en écoutant Yves Cochet, qui s'est d'ailleurs déjà réfugié dans sa campagne, qui va se débrouiller tout seul en attendant, en espérant, je ne sais pas, le pire. Les prophètes de malheur, parce que là c'est quand même un peu ça, ne se sont jamais aussi bien portés qu'aujourd'hui, Catherine Larère.
Mais je pense qu'il y a une grande angoisse quand
bien
même.
Sûr, hein.
La situation est, comme je dis, elle est mauvaise et les choses vont plus vite qu'on pouvait le penser. Hein, les glaces dans l'Arctique et en Antarctique sont en train de fondre beaucoup plus vite qu'on ne le pensait, avec des effets de rétroaction positive. C'est-à-dire que ça risque de libérer et du méthane et donc d'accélérer la fonte. Donc ça va mal. Et je pense qu'il y a une vraie angoisse. Et je pense que la force des collapsologues, c'est d'avoir saisi cette angoisse, d'y avoir donné un récit, bon, qui on vient d'entendre Yves Cochet, qui est grossier, qui ne tient pas, mais qui, d'une certaine façon, donne raison aux gens dans leur angoisse, qui leur disent, ben voilà pourquoi vous êtes angoissés, effectivement.
Ça rassurerait presque.
Ça a un côté rassurant. Ouais. Ça a un côté rassurant, si on prend les comparaisons individuelles avec le cancer qui font volontiers. Vous avez un certain nombre de gens, j'en ai reconnu, hein, qui ont toujours peur d'être malades. Et puis quand ça arrive pour de bon, il y a une sorte...
On est presque soulagés.
On est presque soulagés. Mmh. Et je crois qu'il y a un effet psychologique de ce genre-là. Mais ça ne veut pas dire qu'ils pensent bien, ça veut plutôt dire le contraire.
Oui, parce que vous, ce que vous dites, non seulement le pire n'est pas certain, mais il y a des alternatives si on arrive à sortir de ce récit qui clôt l'avenir, quoi, finalement, qui nous paralyse, c'est foutu. Si on arrive à penser, à être conscient, c'est pas évident. Et puis ça fait mal aussi hein, de voir effectivement à quel point notre monde est abîmé, à quel point ça s'accélère, enfin, et à quel point ceux qui, comme vous le disiez, Raphaël, en souffrent le plus, ce sont pas ceux qui sont à l'origine hein, de ce bouleversement à l'échelle planétaire. Ça fait mal, faut s'en rendre compte, mais du coup, on peut agir, alors que sinon on est paralysé.
Ah ben sinon on est paralysé, de toute façon c'est bien ce que vous dites, c'est-à-dire qu'ils prétendent s'appuyer sur des références scientifiques, mais en fait c'est un récit qui met en forme ces références, et qui est un récit circulaire, c'est-à-dire l'anticipation. Comme on anticipe la fin, tout devient un signe de la fin. Donc il y a une sorte de circularité qui fait que tout d'un coup la chose semble devenir impossible à nier, alors... qu'elle est niable. Et alors, la deuxième chose, et ça, vous l'avez bien montré dans les questions que vous avez posées, il s'agit de parler, de passer du singulier au pluriel. C'est-à-dire, si on prend en considération que l'idée d'un effondrement global, simultané, uniforme, ne tient pas, on l'a vu même avec le Covid. C'est-à-dire, il y a à la fois une connexion énorme, et en même temps, ben, ça a été des développements très différenciés, qui ne sont pas produits d'ailleurs. On s'attendait à la catastrophe en Asie, en Afrique par exemple, ce qui n'a pas été le cas.
Absolument.
Donc, là, bon. Et donc, si on quitte le récit globalisant, qui peut être terrifiant, hein, si on en reste au récit globalisant, l'augmentation des gaz à effet de serre, la disparition des
espèces, etc.,
et qu'on met en face ce qu'on fait, on se dit, oh, ben c'est foutu, quoi. Et alors que si on prend la diversité de la situation, c'est-à-dire si on ne se situe pas uniquement à un niveau global, ben on se rend compte qu'il y a des choses qui se font, il y a des combats qui se gagnent, il y a... Alors, on ne va pas revenir, on parlait d'Anthropocène, on ne va pas revenir à l'époque d'avant, mais ça ne veut pas dire que tout va forcément vers le plus mal. On peut restaurer un certain nombre de situations, et ça s'est fait depuis le début.
On va en venir à des exemples. Hein. Il y a eu des restaurations, il y a eu des alternatives plurielles, vous le dites. Alors bizarrement, il faut élargir le point de vue et Raphaël Larrère, sortir un peu du global, penser à la fois local, mais aussi au pluriel et pas au singulier, la diversité.
Voilà. Alors bon, penser au pluriel, c'est-à-dire savoir qu'il n'y a pas la catastrophe, mais qu'il y a eu des catastrophes, et qu'il y en aura encore, on le sait. Mais ça ne signifie pas qu'elles vont se prendre en masse en une seule, unique catastrophe. Même chose, il n'y a pas un monde, mais il y a des mondes différents, qui ont des rapports différents entre eux, et qui ne sont, se trouvent pas dans la même situation. Deuxièmement, je pense que ce qu'il faut bien voir, c'est que au niveau global, on est effectivement en face d'une quelque chose qui est très important pour les collapsologues, d'une impuissance. Il y a une impuissance des États à prendre vraiment des mesures, à changer de trajectoire.
Ça, c'est vrai. Ça, c'est un vrai constat. Et c'est peut-être là qu'ils ont un rôle très positif, les collapsologues, c'est d'alerter, de dire attention. Voilà.
Et ils ne veulent pas, d'ailleurs, changer de trajectoire. Ils nous donnent de belles paroles, hein, on va en entendre bientôt, d'ailleurs, mais ils ne veulent pas changer de trajectoire. Donc, ça reste. Bon, il y a une impuissance, jusqu'à maintenant, de ce qu'ils appellent les luttes environnementales, des partis verts, etc. Bon, ce que l'on doit reconnaître. Mais quel type de lutte ? Alors, nous, ce que nous disons, c'est que, en fait, cette impuissance, elle est vraiment globale. Elle est globale d'autant plus qu'au niveau global, on ne peut absolument pas concevoir ce qui va se passer dans toute sa complexité. Par exemple, l'IPBES peut dire des choses...
L'IPBES, c'est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité.
Sur la biodiversité, voilà. Exactement.
Peut alerter en disant ben, « ça va très mal, regardez, il y a 68% des vertébrés qui ont disparu depuis 30 ou 40 ans ». Bon, c'est une bonne alerte. Mais si on veut intervenir pour améliorer la biodiversité, on ne peut pas le faire à ce niveau-là. On ne peut le faire qu'au niveau local où ce qui est intéressant, ce n'est pas le stock d'espèces, mais c'est les interactions qu'elles ont et des interactions qu'elles ont avec les activités humaines.
C'est ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, ces organisations internationales ne peuvent pas décréter d'en haut et aucun État ne va les suivre qu'il faut s'occuper de la biodiversité. Il faut que ce soit localement, en lien avec les populations et en fonction de chaque périmètre, territoire humain, non humain qui réside, c'est ça. Hein.
Tant de situations diverses, oui.
Voilà. Et donc, il faut tenir compte de la grande diversité des situations. Et puis, effectivement, si on veut améliorer la biodiversité sur le plan local, on va effectivement se trouver confronté à des gens qui ne voudront pas, hein, et à des gens qui ont du pouvoir. Mais en même temps, c'est maîtrisable. Alors qu'au niveau global, il n'y a aucune instance qui soit capable de décider démocratiquement de ce qu'il faut faire, après débat, après engueulade, après lutte, etc., et de l'imposer à tous les États.
Donc on va revenir sur ces luttes collectives au niveau local, politique, hein, parce que vous voulez ramener la politique aussi dans ce terrain-là, hein, finalement, parce que quand on dit que le pire est certain, il n'y a plus de politique possible. Alors je propose justement d'écouter l'éclairage de Pablo Servigne, qui est un des fondateurs de cette collapsologie. Il était l'invité d'Anne-Cécile Bras dans C'est pas du vent le week-end dernier avec Raphaël Stevens. Tous deux sont donc les cofondateurs de ce concept de collapsologie à travers plusieurs ouvrages. Le dernier s'intitule « Aux origines de la catastrophe ». Allez, on écoute Pablo Servigne.
redonner un discours, un récit qui puisse casser ce mythe de la croissance, qui puisse aussi réinventer autre chose. Parce que si on dit effondrement, on parle forcément de renaissance, de cycle. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de montrer. Et puis dans la rue, on voit bien que beaucoup de jeunes sont mobilisés par cette question de possible fin du monde. Et je dis possible parce qu'on a toujours dit possible. On n'a jamais dit que c'était certain. La science ne peut pas dire que c'est certain. Et c'est cette incertitude radicale, fondamentale, qui est vraiment importante pour le passage à l'action. Ceci dit, on le considérait, on fait comme si c'était certain pour pouvoir en atténuer les effets. On dit que ça sera quand même compliqué d'éviter totalement tous les impacts, mais on va traverser ces tempêtes. Comment on va vivre ces tempêtes? Comment on va éviter le survivalisme égoïste? Comment on va éviter les dépressions? Comment on rend pluriel les effondrements, les choses, les catastrophes, les analyses? Ça a toujours été notre travail. Donc je partage votre analyse. Mais c'est pas contre la collapsologie. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est plutôt chouette. Il y a des collapsologies au lieu de une. On n'est pas un bloc monolithique. Et c'est toujours sain d'arriver à penser notre époque et de s'engager. Enfin, voilà, c'est ce qui nous motive depuis le début.
Vous voulez réagir, Catherine Larrère, à ces propos de Pablo Servigne au début, quand Anne-Cécile Bras lui a demandé de réagir, hein, parce qu'il savait que vous veniez. Il disait qu'il ne fallait pas s'arrêter au titre, comment tout peut s'effondrer. C'est vrai que quand on lit les titres de leurs ouvrages, on est catastrophé. Hein, y a pas d'autre
et d'autre part, il a dit que la catastrophe était inévitable. Bon, ce n'est pas mon recueil, mais il l'a dit. Donc il y a une façon. Moi, ce qui me frappe, donc on ne va pas rentrer dans une sorte de polémique, mais il n'a pas dit. Mais cette façon de mettre sur le même plan des expériences individuelles psychologiques, lutter contre la dépression, et des réactions collectives. Et je crois que c'est là, alors, les possibles qu'il ouvre, c'est dans le repli domestique, qui n'est pas forcément individuel, et il met bien l'accent sur le...
Chacun dans son petit coin, on peut peut-être s'en sortir.
On peut faire ça à plusieurs, mais ça nie la politique, parce que la politique, c'est le conflit et c'est le lien. Or, on a des replis individuels ou de petites collectivités et qui n'ont pas cette capacité du politique à la fois à affronter le conflit, qu'à mon avis il évite, et à faire du lien. Si on prend Notre-Dame-des-Landes, qui est l'exemple d'un succès, d'une lutte qui a un succès et qui a un succès qui est dû à de multiples acteurs.
Il n'y aura pas
d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Voilà. Et on a à la fois une tentative de nouveau mode de vie sur le territoire de Notre-Dame-des-Landes, et puis on a en même temps des soutiens venus de toute la France et de beaucoup plus loin que la France, donc des formes de mobilisation qui font que Notre-Dame-des-Landes, on le retrouve un peu maintenant à Bure, là où il y a un projet
d'enfouissement nucléaire.
Donc c'est ça la politique, c'est cette capacité à dépasser le petit groupe.
Or, pour faire bouger les lignes,
pour obtenir
quelque chose de l'État. Parce qu'aussi, il faut qu'il y ait un État et parce que ça ne va pas se passer tout seul dans son coin ou en minuscule communauté. Ce n'est pas comme ça que ça va marcher.
Je dirais, si ça marche en minuscule communauté, c'est que vraiment, c'est sans effet. Ou c'est sans effet. Je veux dire, c'est complètement anodin. Si des États actuellement ont intérêt au business as usual, comme vous disiez tout à l'heure, essayer de faire autre chose, ça ira pas sans lutte. Donc ça ira pas sans mobilisation, sans peut-être des formes de violence, enfin bon, je sais pas moi, de dire ce qu'il faut faire, mais effectivement, d'ailleurs, Servigne dit je suis anarchiste. Oui, c'est sympa les anarches en général, mais simplement, on fait pas sans État. Hein, on l'a vu pendant le premier confinement, on a besoin des hôpitaux.
Et on a besoin d'un État en état de marche, et on a besoin de luttes politiques et collectives pour que ça bouge. Car le pire n'est pas certain, et le meilleur viendra du collectif, hein, on l'a bien compris, et peut-être même du politique, du retour du politique. On continue de s'interroger donc en votre compagnie, Catherine et Raphaël Larrère, autour d'un autre de vos choix musicaux, engagé, inspiré, c'est le poète, compositeur et guitariste argentin certain Atahualpa Yupanqui. Vous avez choisi d'écouter Bastaya, sans commentaire.
Ellos están cantando, compadre, están anunciando que ya empieza la jornada. Nació esta lamentación, compadre, ponga atención, que ya empieza mi cuarteta, no tenemos protección.
Ça fait du bien, ça touche, ça fait du bien par où ça passe. Atahualpa Yupanqui sur RFI, Bastaya. Pourquoi ce joli choix, Catherine Larère?
Mais c'est pour rendre hommage à tous les Amérindiens, à toutes les civilisations d'Amérique du Sud qui ont été lentement d'ailleurs renversées par la colonisation espagnole. Et bon, c'est un monde de vaincus, mais c'est un monde qui continue à se battre et à essayer de garder la mémoire, le nom d'Atahualpa, et Bastaya. Bon, ça suffit, quoi.
Ça suffit. Autour de la question, pourquoi le pire n'est pas certain, c'est le titre de votre dernier essai. Un essai sur l'aveuglement catastrophique dans lequel vous vous interrogez, Catherine et Raphaël, sur les manières forcément plurielles de penser et d'agir pour éviter la catastrophe, car elle était évitable. Le pire n'est pas certain, même face aux crises écologiques et environnementales multiples. À ce sujet, je propose un nouvel éclairage. C'est celui d'une virologue, Tania Louis, de la chaîne YouTube Biologie Tout Compris. Elle est aussi l'auteur de la folle histoire des virus. Écoutez son point de vue assez étonnant sur la, ou plutôt les catastrophes environnementales à venir.
Ma position, elle est que de toute façon, des crises, il y en a déjà eu plein sur notre planète et que la biosphère s'en est toujours relevée. La question, c'est est-ce que l'humanité va réussir à passer au travers ? Mais fondamentalement, si on prend un peu de recul, le devenir de l'humanité elle toute seule par rapport à tout le reste des êtres vivants est assez secondaire. C'est un peu cynique, hein, mais en termes d'effectifs, c'est sûr. Peut-être que la question qu'on pourrait se poser, c'est si on n'arrive pas en tant que société à se rassembler et à mettre en place toutes les mesures qui pourraient éviter un effondrement ou une dérive grave aux conséquences désastreuses sur notre espèce, qu'est-ce qu'on aura laissé comme trace ? Parce qu'il y a tous ces débats sur l'anthropocène comme ère géologique, où en fait, normalement, une ère géologique, c'est défini par quelque chose qu'on peut repérer. Et y a des débats sur qu'est-ce que nous, on a laissé, en fait. Est-ce que dans des millions d'années, quand on reviendra, on pourra repérer l'âge de l'humanité parce qu'il y aura des microplastiques dans les couches de sédiments, parce qu'il y aura plus de radioactivité à cause des essais nucléaires, etc. Et c'est pas du tout sûr que ce qu'a construit l'humanité laissera vraiment des traces à long terme.
Vous êtes complètement terrifiante. Ce qui va rester, ce n'est pas nos œuvres d'art, ce n'est pas vos livres, ce n'est pas la science, en fait, c'est du plastique et de la radioactivité.
On peut le tourner de façon un peu plus positive, si vous voulez. Mais si les dinosaures avaient construit des villes comme les nôtres, est-ce qu'on en aurait des traces aujourd'hui? Et la réponse est vraisemblablement non.
Et voilà qui nous remet à notre place. Allez, en guise de conclusion, enfin pas tout à fait, mais bientôt. Catherine Larrère, voulez-vous réagir à cet éclairage, la biogestionnaire?
Ça me fait penser au très beau livre de celui qui est connu comme un auteur de romans policiers suédois, mais qui n'est pas ça, qui est Mankell.
Ah, Mankell.
Qui a écrit un très beau livre où c'est au moment où il apprend qu'il a un cancer dont il va mourir. Et en même temps, il réfléchit sur justement l'enfouissement des déchets nucléaires et il pose la question que cette dame vient de poser, c'est-à-dire, bon, toutes les sociétés avant nous ont voulu laisser quelque chose de beau, eh bien, nous, ce que nous allons laisser, c'est des déchets nucléaires, parce que peut-être pas des millions d'années, mais la demi-vie des déchets de très grande activité et de vie longue, c'est plus de 500 000 ans. Hein. Et donc, et d'ailleurs, j'ai entendu un responsable des grandes institutions nucléaires dire « Mais c'est un patrimoine qu'il faut conserver !» Ce qui pose problème.
Ah, complètement fou. Oui, c'est ça. Et comment le conserver et comment prévenir dans 100 voilà. millions d'années
Et donc, il y a là quelque chose d'effectivement d'inquiétant de nos civilisations. Si elles ne peuvent, il vaudrait mieux pas laisser de traces du tout.
Plutôt que ne laisser que ça. Mais en tout cas, ça nous rappelle, Raphaël Larrère, pareil, un peu en guise de conclusion aussi, à quel point il est urgent d'affronter ce que l'on est, ce que l'on fait, mais à quel point ce n'est pas une catastrophe, mais c'est comment aussi il y a des alternatives. Elle n'est pas inéluctable, elles ne sont pas inéluctables, et c'est petit à petit en prenant chacune, et en s'inspirant peut-être aussi, comme vous le disiez, de tous ces peuples qui ont vécu des catastrophes et la fin de leur monde, qu'on trouvera des pistes, d'envie, de penser et d'agir, Raphaël.
Oui, alors, moi je pense que il faut quand même regarder ce qui se passe de par le monde. Mmh. Et je pense que partout, dans tous les pays, on se rend compte qu'il y a des luttes qui se développent et qu'il y a des expériences aussi de vivre autrement et de produire autrement. Mmh. Hein. Et ça, on le retrouve sur tous les continents. Hein, que ce soit bon, toutes les luttes pour passer, pour abandonner l'agriculture de plantation et développer une agroécologie hein, contre mmh. les formes d'agriculture productiviste et ce qu'on avait appelé la révolution verte, mmh. qui était une agriculture productiviste pour les pays chauds, que ce soit aussi chez nous en France, où on se rend compte qu'il y a des quantités de formes d'expérience, alors de lutte d'une part, sur les questions du changement climatique, aussi bien que sur les questions environnementales et des pollutions, mais qu'il y a aussi tout un tas d'expériences qui se développent, que ce soit l'agriculture biologique, l'agroécologie, généralement en conflit ouvert avec la FNSEA.
Mais il y a des pistes de lutte pour rouvrir des possibles. On est obligé de s'arrêter là et on en ferait bien une autre. Merci en tout cas de nous avoir ouvert l'esprit sur ce que nous traversons. Je ne saurais trop encourager la lecture de votre essai revigorant, percutant, Catherine et Raphaël Larrère. Le pire n'est pas certain, paru aux éditions Premier Parallèle, à mettre résolument entre toutes les mains. Merci d'avoir été en
Merci
direct,
beaucoup.
Catherine Larrère. Merci Raphaël d'avoir
Merci.
Été en ligne. Et vous revenez quand vous voulez, puisqu'on en est sûr maintenant. Le pire n'est pas certain. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, chers amis auditrices et auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses et Caroline Nachowski au micro pour vous servir et pour remettre en question d'autres certitudes, d'autres révolutions sur la génétique et l'épigénétique. Vous en saurez plus demain sur RFI. Dans une minute, vous retrouvez les informations.